et vous écoutez France Culture. Il faut faire ce que maman te dit, sinon tu sais ce qui va se passer. Joey Spinell, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Ça sentira plus que jamais le sapin ce soir à Mauvais Genre qui vous entraînera, que vous le vouliez ou non, au cœur des forêts canadiennes pour y pister les Mohawks, le François et l'Anglois à la suite du dernier des Mohicans de Michael Mann sorti en DVD Blu-ray chez ESC, qui vous confrontera au lapin eschatologique du Donnie Darko de Richard Kelly, sublimement édité par Carlotta et qui, dans un louable souci de concorde et d'apaisement, vous offrira en pâture à Joe Spinell, le maniaque de William Lustig, dont l'immense Stéphane Bouillet vient d'éditer un collector au chaque qui fume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre arbre de Noël, Mauvais Genre DVD ce soir avec évidemment une affiche choisie, je parle des chroniqueurs et un programme d'élite, je parle des Blu-ray et des DVD. Je suis entouré en effet de Sixtine Audebert. Bonsoir, comment va-t-elle? Bonsoir. Alors, une grande nouvelle pour vos fans, s'ils veulent devenir aussi vos élèves à l'université, ils peuvent vous retrouver où et quand et comment?
À partir du 27 janvier, j'enseignerai 27 donc janvier. À l'université de Montpellier 3, Paul Valéry, et j'enseignerai la littérature rock et ses rapports avec la presse sous-culturelle, musicale, avec Jean et Despentes au programme. J'enseignerai aussi les collections populaires et je ferai un cours sur la figure du créateur comme rebelle. Donc depuis le romantisme jusqu'au satanisme des métalleux.
Très bien, on n'a pas encore le jour et l'heure, mais ça ne serait pas.
C'est le lundi et le mardi.
C'est le lundi et le mardi. Donc le lundi et le mardi, si vous êtes à Montpellier, tous au cours de Sixtine, amenez votre gomme, votre règle, votre cahier et tout ça. Et la liste va être donnée sur Internet, bien sûr. Monsieur Rouillet va-t-il bien?
Mais admirablement.
Qu'a-t-il fait, Monsieur Rouillet?
Il préparait des bonus pour l'édition DVD Blu-ray de Psychomagie, le film d'Alejandro Jodorowsky, avec cette idée de montrer image à la pluie comment ce film est une sorte de clé de voûte de l'ensemble de son œuvre cinématographique.
Très bien, ben on est attentif. Fausto Fazulo, bonsoir.
Bonsoir.
Il vient avec un livre sous le bras, Mad Movies. De quoi s'agit-il? Le Mad Book.
Le Mad Book, tiens, c'est un bon nom, on aurait peut-être dû choisir ça. C'est un guide, très simplement, en fait, de 100 films de genre à redécouvrir, avec un choix plutôt alternatif, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut pas s'attendre à lire et relire des choses sur des films qu'on connaît très bien et qui sont très bons par ailleurs. En revanche, on a plutôt choisi d'évoquer d'autres titres un petit peu moins connus, mais tous disponibles. C'est pour ça qu'à la fin de l'ouvrage, vous pouvez trouver la liste des films évoqués ainsi que les éditions vidéo ou parfois leur disponibilité sur les plateformes VOD.
Donc c'est 100 films essentiels, mais que vous avez oubliés ou que vous n'avez pas encore découvert.
Exactement.
Voilà, donc c'est très important. C'est une publication Mad Movies trouvable dans tous les bons kiosques, les bonnes librairies.
Toutes les librairies.
Les bonnes charcuteries, toutes les bons magasins.
Rose, voilà.
Monsieur Beer a participé à ce livre.
Mais oui, bien sûr.
Mais qu'est-ce qu'il a fait dedans?
Ah, j'ai fait 15 ou 20 films, dont...
15 ou 20 films?
Un cinquième. Oui.
Sur 100, mais dites-moi.
Oui, c'est ça, une vingtaine de films.
Il se Beer Book.
Et non, nous sommes 6 ou 7 rédacteurs. Et j'ai un excellent souvenir, notamment, pour donner un exemple de ces films à redécouvrir, méconnus, The Baby, qui est un film de Boris Sagal, un cinéaste plutôt de télévision, et il y a eu ce...
C'est un film avec Ted Post.
Ted Post.
Boris Sagal, c'est le survivant.
Ted Post. Oh là là. Heureusement que je n'ai pas écrit ça dans
ma
chronique.
Ça sent la fin de l'année. Il a fait un Dirty Harry, Ted Post.
Et The Baby est vraiment une œuvre très étonnante. Très curieuse.
Qui cause de, rapidement.
De la maltraitance maternelle.
Ah oui. C'est un sujet d'actualité.
Oui, ça nous...
Ce soir, dans Mauvais Genre.
Puisqu'on va parler de maniaque, c'est un peu un trait d'union, oui.
Très bien, bah écoutez, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Mais il y a également Céline Duchesnay, bien évidemment.
Bonsoir François.
Céline, qu'avez-vous fait depuis un mois?
Oh, moi, je suis plutôt flottante.
Quelques sorcières, toujours. Rappelons quand même, Céline Duchesnais est l'auteur d'un livre clé sur le phénomène de la sorcellerie, de ses racines médiévales jusqu'à son actualité contemporaine aux éditions Michel Lafond, et qu'il faut lire ce livre. Et France Culture, c'est un événement France Culture. Il faut lire ce livre, bien évidemment.
Mais écoutez, oui, moi, je ne lis plus tous les soirs, tout de même. Donc, non, je suis plus en train de préparer le sapin, de l'orner, de le voir scintiller et surtout de l'admirer. Comme vous, François, je crois.
Absolument, mais avant cela, ouvrons l'encyclopédie à la page ce soir.
Eh bien, même à la lettre B comme Babiole, comme Cécile Babiole.
Aniara Rodado, une artiste d'origine colombienne, à la fois artiste et chercheuse, non dénouée d'humour, et qui a proposé pour l'exposition un projet qui s'appelle Crème pour voler. Donc elle se réfère à la tradition des sorcières et du sabbat des sorcières qui volent sur leur balai. Et elle fabrique, mais d'une manière tout à fait sérieuse, parce qu'elle collabore avec un laboratoire, une crème pour voler, c'est-à-dire une crème qui a pour but d'aider à la jouissance, et qui est donc une crème qu'on ne se met pas sur le bout du nez, qu'on se met sur le clitoris, et qui est une crème à la fois qui a des vertus hydratantes, on va dire, mais aussi qui peuvent aider à l'excitation sexuelle. Et alors elle montre dans l'exposition tout un dispositif qui à la fois dénote le caractère très scientifique de sa démarche, puisqu'elle a une paillasse avec un frigo qui contient des ingrédients, et puis elle est bien consciente qu'il y a un caractère complètement foutraque et louvedingue dans sa démarche, et c'est les deux qui forment à mon avis l'intérêt de ce projet.
C'est une exposition où l'on peut croiser des présences sorcières et cyborgs, des installations ou des œuvres qui renvoient à la technologie et au corps, selon le concept de la philosophe et biologiste féministe Donna Haraway, qui réfute le binarisme et les frontières entre le vivant et les machines. Donc, sorcières et cyborgs se mêlent joyeusement dans cette exposition intitulée Adali et Sowana, cyborgs et sorcières. À l'origine de cette exposition, explique Cécile Babiole, artiste commissaire, il y a un livre, L'Ève future, de Villiers de l'Isle-Adam, un roman qui raconte comment un ingénieur nommé Edison réussit à créer le double artificiel d'une cantatrice très belle, mais très idiote, aidant son ami et éperdument amoureux. Une androïde qu'Edison nomme Adali et qui est évidemment bien supérieure à la femme humaine.
C'est un livre que j'avais lu dans les années 90. À l'époque, je m'intéressais déjà beaucoup à la technologie et j'avais trouvé intéressant de lire ce livre qui mélange à la fois fantastique et réalisme technologique, un peu à la manière d'un Jules Verne, mais en beaucoup plus sensible, beaucoup plus cultivé et beaucoup plus poète en quelque sorte. Et à l'époque, j'avais bien apprécié ce livre. C'est l'idée que la technologie a une dimension magique, et que la technologie, là, elle a affaire au corps. Donc en fait, c'est vraiment cette thématique corps et technologie qui m'a intéressée. Et en relisant récemment le roman, alors que je n'avais pas du tout perçu ça à ma première lecture, j'ai vraiment trouvé que le livre était très misogyne. Alors on peut dire que toute l'époque, puisque ça a été écrit en 1886, toute l'époque était très misogyne, très raciste, etc. Mais je ne l'avais pas perçu dans les années 90, parce que ce qui m'intéressait, ça devait être autre chose, ça devait être justement la technologie. Alors que là, ça m'a sauté à l'esprit. J'ai souhaité faire une relecture vraiment différente de cette thématique corps et technologie en l'élargissant et en proposant quelque chose qui soit un petit peu, qui prenne le contre-pied du roman. C'est-à-dire que si on regarde vraiment ce qui est raconté dans le roman, les femmes sont défectueuses et heureusement, il y a des génies ingénieurs qui les améliorent. Donc c'est un petit peu ça. Ça part de l'idée que la technologie est quelque chose de mécanisme, le fait de génie qui, en plus, accomplissent des prouesses selon leurs fantasmes. Alors que moi, je préfère proposer une autre vision de la technologie, beaucoup plus large et non stéréotypée, qui vise à dire, oui, enfin, la technologie, c'est peut-être un peu ça, mais c'est aussi toutes ces pratiques et ces savoirs que les femmes détiennent depuis la nuit des temps, à savoir les infirmières, les accoucheuses, les sages-femmes, les sorcières, qui en plus utilise ses savoirs, non pas à titre personnel, mais pour la survie de toute la communauté. Donc c'est une vision quand même plus généreuse et beaucoup plus large. Et c'est cette vision-là qui préside un peu à la conception de l'exposition « Adali et Sowana, cyborgs et sorcières ».
Pour retrouver la crème pour voler d'Agnara Rodado, mais aussi les œuvres de Camille Ducellier, Annie Abrahams ou Tabitha Reiser, pour ne citer qu'elles, direction le territoire de Belfort, où l'exposition de l'artiste commissaire Cécile Babiol se tient à l'espace multimédia Gantner à Bourogne. Adali et Sowana, cyborg et sorcière, est à voir jusqu'au 25 février. Et puis, pour en savoir plus sur l'univers artistique de Cécile Babiol, rendez-vous sur son site www.babiol.net, l'occasion de découvrir les liens qu'elle tisse entre technologie, langage et corps, à travers des installations et des performances, notamment avec le collectif Robert Larousse, groupe cyberféministe qu'elle a fondé avec Anne Laforêt et qui travaille sur la féminisation de la langue.
Merci Céline pour cette entrée. Cécile Babiol de notre encyclopédie. Une réaction, Sixtine, sur la crème qui permet de voler?
Pour la crème pour voler, non, je n'ai pas de réaction particulière, si ce n'est que j'ai pris l'avion il n'y a pas longtemps et j'avais une technologie dans mon sac, mais pour voler, donc du coup je rapproche pour voler ce vol-là et d'autres vols, voilà. En tout cas, passer la douane devient très amusant quand on a ces petites choses avec soi.
Bien, bien. Fausto, un désir de voler?
Un désir de voler, évident, mais en revanche, j'ai bien compris que je ne pourrais pas voler avec cette crème, moi.
Ah oui,
c'est pas grave, j'attendrai que quelqu'un propose une crème pour moi.
Pour sorcier et pas sorcière.
Pour sorcier, monsieur Philippe.
Il n'aurait qu'un commentaire, seuls les anges ont des ailes.
Oh là là,
ouais,
c'est
mignon.
C'est beau. Et monsieur Beer, lui a quelque chose à nous dire.
Non, mais pourquoi la féminisation de la langue à tout prix?
Ça me fait toujours peur. Parce que c'est un combat. J'étais sûr qu'il allait le relever.
C'est très important. C'est très
faut
important.
Faut pas basculer d'un excès à l'autre non plus.
Oh, mais en matière d'excès, quand même, vous êtes très fort, monsieur Beer. On va dire la française au lieu de dire le français. Ça va être intéressant comme gymnastique de l'esprit.
Voilà, bah, en attendant, nous saluons donc Cécile Babiol. Merci Céline. Et puis bah, maintenant, dirigeons-nous vers la profondeur de la forêt canadienne à la rencontre des Mohicans. Tambour de guerre, selon Teresa Winter, un choix de Laurent Polleret pour notre playlist Mauvais Genre de ce soir. Je me tourne vers Philippe Rouillet.
Oui, parce que le dernier des Mohicans...
Il va nous parler du dernier des Mohicans de Michael Matrack.
Qui sort en Blu-ray chez ESC et c'est une édition triple bourre. Triple Blu-ray, pourquoi? Parce qu'il y a le Blu-ray de la version cinéma, qui était devenu très rare. Il y a la version Extended Cut, donc qui est en Blu-ray, qui dure 2 minutes de plus. Et le troisième Blu-ray est consacré à une version antérieure, celle de 1936, de George Seitz, avec Randolph Scott. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous allez me dire, parmi toutes les versions du dernier Mohican, pourquoi avoir été chercher cette version de 36?
Pas du tout envie de vous dire ça. Pourquoi.
Mais tout simplement parce que c'est cette version-là qui a donné envie à Michael Mann de faire le film. Il l'a découverte quand il était enfant et il en a gardé un souvenir très vif. C'est-à-dire que à l'époque, il avait déjà vu des westerns, mais il n'était pas du tout habitué à cette image des hommes civilisés juxtaposés avec les Indiens. Et ce regard sur la société indienne l'a complètement marqué, et il a eu envie d'y revenir. Si bien que son adaptation est en fait un remake de la version de 36, d'ailleurs au générique de sa version, d'après le scénario de Philippe Dunne, donc de la version de Seitz, et non une adaptation de Fenimore Cooper, qui évidemment est quand même là, mais l'histoire est très dénaturée, très trahie, ce qu'explique dans un des bonus, magistralement, François Guérif, vous regardez ça en un quart d'heure, tac, il vous explique les différences entre les trois versions, c'est aussi ça qui est très bien. Pour ce qui est des bonus, on a un entretien très très bon de Nicolas Billon, exclusif avec Michael Mann, il a été le voir chez lui à Los Angeles, et ça s'appelle la méthode Michael Mann. Effectivement, Michael Mann raconte la méthode, parce que ce film, qui date donc de 92, qui est son premier grand succès, il vient de faire Sixième Sens, qu'avait ressorti ESC, dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans Mauvais Genre, mais les critiques sont bien les seuls à avoir adoré Sixième Sens, surtout à l'époque. Hein. Alors que ce qui change avec Le Dernier des Mohicans, c'est que Mann va continuer à être suivi par la critique, mais il y a un immense succès public qui va se prolonger avec son film suivant qui est Hit, puis Insider, et Ali, et on pourrait rajouter Collatéral. C'est le début de la période faste de Michael Mann. Et avec déjà cette idée de complètement faire des recherches en amont et préparer ses comédiens. Il raconte comment il a préparé Daniel Day-Lewis, donc, qui joue ce blanc élevé avec les Mohicans. Donc il fallait que Daniel Day-Lewis puisse faire tout ce que fait ses personnages, tout ce que fait son personnage de trappeur, etc. Donc un entraînement dans la forêt de 8 semaines.
It's not as I imagined it would be, thinking of it in Boston.
The frontier is the only land available to people. Out here, they're beholden to none.
As a new land was being carved out of an untamed frontier.
I just dropped in to see how you boys is doing.
One man, defiantly courageous, stood his ground.
I thought all our colonial scouts were in the militia.
I ain't your scout. You sure ain't no damn militia.
One woman, fiercely independent, followed her spirit.
My father warned me about people like you. He said, do not try to understand them. Do not try to make them understand you.
Thank you so much.
They shared an adventure.
It was a war party. That means they're going to be attacking up and down the frontier.
That took them from the edge of the wilderness.
He saved us.
Trailer du Dernier des Mohicans de Michael Mann, le premier film à l'affiche de Mauvais Genre ce soir sur France Culture. Philippe Rouillet.
Donc l'histoire se situe en 1757 pendant un affrontement militaire entre les Anglais et les Français. À noter que le chef français est joué par Patrice Chéreau.
Avec un relief certain.
Avec un relief certain qui est assez extraordinaire. Voilà. Et entre ces deux puissances coloniales occidentales, il y a les tribus indiennes, il y a les Hurons qui sont du côté des Français et les Mohicans, les derniers des Mohicans qui sont du côté français. Et avec va s'y ajouter une histoire d'amour. Le film est très épique. Et ce qui est très passionnant, c'est de voir la relation entre l'homme et la nature. C'est manifestement ce qui intéresse Michael Mann et l'image de Dante Spinotti, qui est son chef-op attitré, hein, il l'avait déjà sur Sixième Sens, il va continuer avec Heat, Public Enemy et tout ça. Ils ont beaucoup travaillé sur la peinture. Georges Kotlin, qui avait déjà inspiré Un homme nommé Cheval, qui ressort en salle en ce moment, que vous pouvez voir le film de Silverstein, sur le monde des Indiens, la civilisation indienne, et George Cole pour les paysages. Thomas Cole pour les paysages. Et cette idée d'une cathédrale de nature. Et là, il y a quelque chose qui se joue. Vous avez entendu avec le trailer la musique extraordinaire de Trevor Jones qui donne un sens épique et qui prépare au cœur de cette histoire une histoire d'amour totalement folle, totalement échevelée, totalement romantique. Et ça, Michael Mann, c'est peut-être la fois où il réussira le mieux à dépeindre une histoire d'amour.
C'est vrai que la peinture joue un rôle important. Ils ont dû bien passer en vue, je dirais, tous les peintres de ce qu'on appelle du Sturmundrang, c'est-à-dire de toute la peinture pré-romantique. Parce que c'est un grand film pré-romantique où la nature est montrée comme une entité à la fois sublime.
Le sublime, oui, c'est vraiment le sublime.
Terrifiante et en même temps exaltante, mais terrifiante.
Ouais, avec et la là, petitesse de l'homme voilà. face à la...
Et ça, ça c'est très très fort. Et les paysages qui ne peuvent pas être évidemment les paysages du western classique, puisque l'histoire n'est pas celle-là, arrivent quand même à raccrocher sur le sublime du paysage, qui n'est pas le sublime désertique, qui est un sublime forestier et montagnard de manière assez extraordinaire. Sixtine.
Oui, oui, et c'est vrai que porté par le côté très, très grandiloquent, très opératique de cette musique, ouais. On ressent effectivement avec une émotion très intense ce romanesque comme Philippe le disait, très épique, très, très axé à la fois sur l'aventure, le western, le film aussi, je crois, entre pas mal de genres. Et c'est vrai que le rythme est très, très, très soutenu. C'est, à l'origine, ça m'avait fait penser à Barry Lyndon, mais en réalité, il a peut-être un sens encore plus, plus opératique, je dirais, que Barry Lyndon. Non ?
Il y a d'autres choses qui fonctionnent. Barry Lyndon, je pense, fonctionne sur d'autres choses, parce que c'est l'ascension et la chute. Et... Mais il y a un écho. En tout cas, il y a une idée de se réapproprier le film historique.
Ouais.
Parce qu'avant d'être un western, c'est aussi un film historique. Alors, je suggère à nos auditeurs de comparer la séquence d'ouverture qui est une chasse aux cerfs avec celle qu'il y a dans Voyage au bout de l'enfer. C'est très intéressant de voir comment la chasse au cerf, alors évidemment, là, elle se passe très différemment, mais c'est toujours l'idée d'un fusil à un coup, hein, finalement, comme Robert De Niro dans le film de Michael Cimino. Et ça dit quelque chose, là encore. C'est, je trouve ça très fort de montrer une scène de chasse pour expliquer les personnages.
Chingachgook, comment ça va?
Le maître de la vie est bon. Encore une année de passé. Et toi, comment ça va?
Ça va. Enfin, on se débrouille. Nathanaël.
Bonsoir, John. Tu as encore défriché du terrain?
Oui, ça avance.
Ah. Alexandra.
Bonsoir.
Jack, bonsoir.
Bonsoir, Nathanaël. Ça va?
Oui, très bien.
Où chassiez-vous?
À l'ouest de la rivière.
Partout devant le porte. Il aurait mieux fait de s'installer avec une femme et de fonder une famille depuis le temps.
Regarde, Andreas, regarde.
Bonne année pour le maïs.
Les Moraques vont pousser du maïs
encore,
sur
encore.
5 miles le long du fleuve. C'est au chef Joseph Brandt, le chef.
Vous rapportez des fourrures?
Oui, beaucoup.
Beaucoup de fourrures.
Il n'y a presque plus de gibier dans la région.
Et où troquez-vous les peaux à Castel?
Postofazulo.
Vous voulez que je vous rapporte des fourrures, François?
Ah oui,
c'est
oui,
ça
c'est vrai.
Non, mais... qu'est-ce que je pourrais ajouter? C'est clairement l'un des plus beaux films des années 90 et paradoxalement, c'est pas le film de Michael Mann qui vient en premier quand on évoque sa filmographie. C'est vrai que c'est quelqu'un qu'on rattache plus volontiers en fait au polar urbain et c'était intéressant que vous parliez justement des paysages puisque Michael Mann en fait, c'est un grand cinéaste de paysages, qu'ils soient urbains ou naturels comme c'est le cas dans Le Dernier des Mohicans, les paysages deviennent un personnage et ils sont tout à fait magnifiés par la photo de Dante Spinotti. Et moi, il y a quelque chose qui m'avait aussi énormément frappé en découvrant le film pour la première fois, c'est justement le souffle romanesque du film, dont je n'imaginais à vrai dire pas Michael Mann capable. En tout cas, à cette époque-là. Aujourd'hui, bien sûr, aucun doute sur ses capacités de metteur en scène. Il était tout à fait capable à l'époque, mais faire un film aussi dense qui convoque à la fois Kubrick, aussi le Ridley Scott des duellistes. Enfin, il y a tout.
Absolument.
Voilà, on est quand même face à non pas une accumulation de citations puisqu'il a sa propre personnalité visuelle et narrative, Michael Mann, mais en tout cas il convoque justement un sens du cinéma épique et romanesque qu'on ne lui connaissait pas et cette ressortie c'est vraiment l'occasion pour découvrir ou redécouvrir ce film qui n'est pas forcément celui que les amateurs de Michael Mann mettent en premier dans leur top 3 certes. Justement du cinéaste.
Moi, ce qui m'a aussi beaucoup retenu, et ça, c'est l'influence de Kubrick, c'est la dimension militaire et la dimension technique. Parce que j'attends notre ami Jean-Baptiste Thoré qui prépare une somme sur Michael Mann sur cette question. C'est la place de l'objet technique et de la réalité technologique dans l'univers de Michael Mann qui a toujours su, je ne sais pas comment il fait, mais génialement filmer les avions, les voitures et les objets, les artefacts comme ça. Alors je me disais, ça va être très intéressant de voir dans Le Dernier des Mohicans où va se réfugier sa passion pour la technique. Alors déjà, elle est, ça c'est l'influence de Barry Lyndon, elle est dans le costume et dans la figuration du militaire anglais parce que autant les Indiens font corps et se perdent sont tissés de la même, du même matériau, de la même matière que la forêt, puisque leurs costumes, leurs armes, leurs outils proviennent de la forêt. Donc il y a une espèce de continuité entre les colons, les Indiens et la forêt. Tout ça, ça participe de la même, du même tissu. Et par contre, les Anglais, avec ce rouge vif qui, comme dans Barry Lyndon, tranche sur la forêt, alors tranche là de manière absolument impitoyable sur la forêt canadienne, et véritablement l'anglais, le militaire anglais apparaît comme un robot, comme une sorte d'automate et comme un objet technique. Et puis alors là, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, mais il y a des bombardes. Et je crois que la technologie chez Michael Mann dans Le Mohican, c'est la manière extraordinaire qu'il a de filmer les canons et les bombardes. Là, il y a des numéros d'artillerie, le spectacle de l'artillerie française et de l'artillerie anglaise déchaînée dans la forêt canadienne, tout à fait extraordinaire. Et là, on retrouve le sublime pré-romantique, ouais. Le Sturm und Drang, toute cette espèce de toute la, comment dirais-je, l'explosion à la fois du canon, enfin qui la décharge du canon et l'explosion des forteresses et des sandbars. Sur les... Là, on est dans vraiment la grande vision pré-romantique.
Sur les forteresses, en fait, ce qu'a fait Michael Mann, c'est qu'il a carrément fait acheter une parcelle de forêt, si bien qu'il en a rasé les arbres, et avec les arbres rasés, il a construit le fort. C'est-à-dire que ce qui est très passionnant chez lui, c'est qu'il veut que ça se passe comme font les personnages. C'est-à-dire qu'il y a un fort, et effectivement, les colons ont construit leur fort à partir des arbres qu'ils ont coupés. Ils n'ont pas amené du bois d'Angleterre. Donc, l'équipe technique a dû faire pareil.
Ah oui.
On évoquait Kubrick, mais ça fait partie effectivement du perfectionnisme, de la maniaquerie de Michael Mann. Ce qui est marrant, c'est de voir que il est effectivement prêt à sadiser son équipe pour obtenir exactement ce qu'il veut, et au final, il l'obtient quasiment toujours d'ailleurs.
Ben, ça vaut le coup, enfin, je veux dire,
quand on voit le résultat du film,
et il le dit lui-même, les acteurs aiment travailler avec moi parce qu'ils savent qu'à l'inverse des autres films où il y aura 2 semaines de répétition, ils savent que je vais les amener pendant la préparation, à être à la hauteur de leur personnage. Et ils me font confiance.
Oui, ça c'est vraiment le processus d'immersion. Enfin, le contrat d'immersion, c'est quelque chose que signent les comédiens dès qu'ils vont tourner avec Michael Mann. Hein.
Alors avec Michael Mann, dans le dernier des Mohicans, dont évidemment nous rappelons, qui est paru chez ESC, donc
voilà, trois Blu-ray. Très belle édition.
Voilà, on va laisser passer quelques décennies, quelques siècles. Là, on est à 1757, l'Amérique est encore une colonie, elle s'apprête à se détacher de la mère patrie, à devenir les États-Unis d'Amérique du Nord, et avec Donnie Darko, eh bien, le tuto a passé, l'Amérique a bien évolué depuis.
1988.
Voilà. Ça n'est plus tout à fait l'époque des Mohawks et des forêts profondes. Deuxième sujet ce soir dans Mauvais Genre, donc le Donnie Darko de Richard Kelly.
Wake up, Donnie.
I made a new friend.
Real or imaginary?
28 days.
Imaginary.
42 minutes and 12 seconds. Do you believe in time travel?
I'm going to tell you a little story today
about a young man whose life was completely destroyed by these instruments of fear.
Under blue. Fausto, donc Donnie Darko, somptueusement édité par Carlotta dans cette collection, je crois que c'est le tome 14.
Ultra Collector.
Ultra Collector.
Bah voilà, Ultra Collector, double Blu-ray, double DVD, un livre de 200 pages, donc il y a de quoi déguster. Le lapin a de quoi. Le lapin est dodu.
Du lapin sur la planche.
Alors voilà. De quoi s'agit-il avec Donnie Darko? Parce que quand même, il faut déjà essayer de résumer, d'esquisser un résumé de l'intrigue.
Bah, moi je dirais très simplement que c'est un film pré-apocalyptique. Et c'est très difficile en tout cas de lui accoler une étiquette précise, puisque le film est à la fois une satire, un film de science-fiction, un teen movie, une sorte de chronique aussi, mais tout ça finalement est très organique. Et je vous cache pas que j'avais quelques craintes en revoyant le film. En réalité, je l'avais vu à sa sortie, le film m'avait plu, mais je l'avais jamais revu donc depuis quelque chose comme 18 ans. Et j'avais un petit peu peur en fait de me retrouver confronté finalement à un film qui était assez puissant à l'époque parce qu'il représentait une forme de contre-proposition, Et j'avais aussi peur un peu que ces aspérités, parfois un peu lynchiennes ou post-lynchiennes, en fait, vieillissent mal. Et en définitive, pas du tout. Le film tient encore très bien la route aujourd'hui. Tout ce que je lui avais reproché à l'époque justement concernant son wannabe lynchisme, je trouve que ça s'est atténué et que le film en fait a sa vraie personnalité, alors qui depuis a été aussi confirmé par les autres films du metteur en scène. Donc c'est vrai que on n'aborde plus aujourd'hui Donnie Darko de la même façon qu'en 2001, puisqu'on a vu ce dont était capable Richard Kelly et quel univers il déployait. Mais c'est un film qui en fait est un tout petit film en réalité. C'est vraiment un film intimiste et c'est un film mental en fait. Ça nous raconte le parcours et les digressions plutôt de Donnie Darko, qui est un lycéen quasiment comme les autres, quoique un petit peu plus brillant que la moyenne quand même, qui se trimballe, appelons-le comme ça, un ami imaginaire en fait, un lapin. Géant, évidemment.
Un lapin qui a une allure un peu particulière.
Voilà, c'est un lapin, on va dire, gothico-torturé, si on devait...
Humanoïde, ouais. Il est sur ses deux pattes.
Tout à fait. Et puis, un drame va se passer, et c'est un drame qui est plus qu'un gros drame, puisque un avion va s'écraser et un réacteur va atterrir dans la chambre de Donnie Darko. Et à partir de là, le film va se déployer, et on va suivre, en plus du personnage principal incarné par Jake Gyllenhaal, on va suivre plein d'autres personnalités, en fait, qui composent cette petite ville de Virginie. Et le film a cette qualité en fait, je trouve, dans sa narration, c'est qu'il fonctionne par touches. En fait, c'est clairement un film impressionniste, c'est-à-dire que on suit effectivement le personnage de Donnie Darko et aussi toute la galaxie de personnages qui sont autour, qui pourraient être des sous-intrigues qui ne servent pas à grand-chose, mais en définitive leur portrait en fait construit aussi le personnage de Donnie Darko. Et en cela, le film est vraiment brillant. Faut pas oublier qu'il a été réalisé par un jeune homme de 25 ans. Que ça a été très dur ensuite d'ailleurs de commencer de façon aussi tonitruante, puisque la suite tout le monde la connaît, c'est Southland Tales, un film qui s'est fait découper en morceaux quand il a été présenté à Cannes, ensuite The Box, accueil mitigé, et puis depuis 2008 il n'y a plus de nouvelles au niveau du long métrage de Richard Kelly. Donc aujourd'hui en fait replonger dans ses débuts, c'est vraiment se dire qu'on a affaire à un metteur en scène avec une véritable personnalité et qu'on aimerait le voir un petit peu plus tourner. Ça devrait être le cas, puisque je crois qu'il est en train de préparer une sorte de biopic de Rod Serling. Donc il y a aussi
on est attentif.
Et c'est d'une cohérence implacable, puisqu'il y a évidemment une atmosphère très quatrième dimension en fait dans Donnie Darko. Ce sont des atmosphères qu'il aime travailler, et je pense qu'on est plus dans quelque chose qui se rapprocherait de Twilight Zone que d'un sous David Lynch en réalité.
Oui, c'est absolument ça. En fait, Rod Sterling, Richard Matheson et Philip K. Dick. Enfin, c'est les trois qu'il revendique lui-même. Il y a un making-of de 85 minutes qui est proposé dans cette édition, qui est assez remarquable parce que ça nous fait revivre la jeunesse. Parce que comme tu le dis, il a même pas 25 ans quand il fait le film. Et c'est très compliqué parce qu'il a juste un court-métrage. Son producteur a pas grand-chose non plus à son actif. Et c'est quand même très compliqué d'expliquer qu'il va faire ce film auquel les gens ne comprennent rien quand ils lisent le scénario. Et en plus, ils veulent le faire en scope. Parce que le scope, c'est mieux pour les paysages. Alors, heureusement, il va pouvoir s'appuyer sur son chef-op. C'est Steve Poster qui a beaucoup travaillé avec Ridley Scott. Il a été seconde équipe chez Ridley Scott. Il a fait Trahi aussi. Et il connaît parfaitement les objectifs. Il va obtenir des prix. Tout le monde met du sien. Je veux dire, Jake Gyllenhaal, il est pas connu quand il fait le film. C'est son premier rôle. Et l'autre lui dit, pour jouer ta sœur, tu voudrais pas demander à ta sœur?
Oui, et donc, c'est idée, la sœur, Maggie.
Voilà. Et alors, le film est comme ça. Parce que dans le casting, on a le plaisir d'avoir ces... Mais on retrouve, par exemple, Drew Barrymore, qui était la petite fille de E.T., et on retrouve Catherine Ross.
Qui joue la prof de français.
Catherine Ross, la psy, c'est la fiancée de Dustin Hoffman dans le lauréat. Donc, il y a comme ça un assemblage.
Et Patrick Swayze aussi.
Et il y a Patrick Swayze, alors, qui joue un coach de vie extraordinaire. Et on ne va pas dévoiler tout ce qu'il y a derrière le personnage de Patrick Swayze. Alors... Ce que tu disais, Fausto, est très juste, c'est-à-dire que toutes les intrigues secondaires viennent nourrir le portrait de ce jeune homme, mais ça va encore plus loin que ça, puisque c'est un décompte avant l'apocalypse, puisque le lapin lui apparaît cette fameuse nuit avec le réacteur en disant, voilà, ce sera la fin du monde dans 26 jours, 6h, 42 minutes et 12 secondes. Et à partir de là, on rentre dans un décompte. Et en fait, la clé du film, c'est le voyage dans le temps. Et ça, on le comprend mieux si on regarde l'autre version du film, qui est la version longue. Alors, c'est pas à proprement parler une director's cut, puisque Richard Kelly dit qu'il aime les deux versions. Il y a une version plus longue de 20 minutes et qui est plus explicative. Et alors, il y a les tenants de la version d'origine et les tenants de la version longue. On ne réconciliera personne parce qu'il y a vraiment deux aspects différents. C'est-à-dire que la version longue est plus profonde et plus explicative. On comprend mieux. Alors, moi, je la trouve plus vertigineuse, mais elle est moins mystérieuse. Mon conseil, si vous ne connaissez pas le film, si vous avez cette chance de ne pas le connaître et de vous faire offrir ce beau coffret, vous commencez par la version courte, vous profitez du mystère et après, vous regardez la version longue qui vous donnera des éclairages sur ce que vous venez de voir et sur ce que vous venez de déguster.
Wake up.
Denis Darko.
Il faut dire que ça fait partie des films que, une fois que le film vient de se terminer, on va sur Internet pour chercher à comprendre si on a bien compris la fin et si on n'a pas loupé un petit élément pour reconstruire le sens. C'est pour ça que, effectivement, la deuxième version viendrait beaucoup plus explicitée. Alors, sinon, moi, la raison pour laquelle j'ai aimé ce film, c'est aussi, effectivement, très prosaïquement, le côté très citationnel des années 80, très fétichiste au niveau de la décoration, avec des zooms sur des marques, des choses qui apparaissent, qui sortent et qui et même la bande son aussi travaille beaucoup disons cette touche citationnelle. Je crois qu'il y a
les chansons,
Duran déjà. Duran,
Tears for Fears,
ouais, super. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Je dirais aussi peut-être, moi j'aurais rajouté Araki. Il y a un petit côté Araki dans le côté un peu sans sens. Qui est confirmé par l'apparition de James Duval, qui est sous la tête de lapin, le très beau James Duval.
C'est du Araki, mais sans sexe.
Sans sexe, oui, sans sexe. Mais le teen movie fucked up, quoi.
Tout à fait, ouais.
Mais Sixtina,
oui. Oui, il y a un côté satirique auquel j'ai été assez sensible. Il y a eu vraiment une satire de ce milieu, notamment familial. Alors, je crois que dans la version longue, on a des aspects plus précis, notamment le personnage du père, qui est un peu sacrifié dans la version sale. Mais on observe quand même une famille assez conservatrice, mais qui a une ouverture d'esprit sur les questions sexuelles discutées avec les enfants. Il y a, alors la satire est surtout extrêmement virulente et drôle pour tout ce qui concerne l'école. Le personnage du proviseur, il y a un professeur assez extravagant et ce personnage interprété par Patrick Swayze qui est vraiment jubilatoire, là, c'est extraordinaire ce personnage. Ça, c'est quelque chose qui s'ajoute au côté Twilight Zone. Donc, on a affaire à un film gigogne, enfin, à la fois un film satirique et en même temps, donc, oui, un film d'épouvante qui fait beaucoup penser à des tas de motifs qui ont dû le nourrir quand jeune, il voyait la quatrième dimension. Ce lapin géant me faisait penser au monstre qu'on voit, enfin que le personnage croit voir sur une aile d'avion.
Tout à fait, oui.
Parce qu'il y a aussi donc cette dimension
schizophrénique. Il n'y a que lui qui le voit, évidemment.
Voilà, c'est peut-être une des clés, ça, on ne dévoile rien en le disant ici, que le personnage principal a peut-être donc des problèmes psychiques.
Il est sous
médicaments, il est suivi par cette psychiatre. Bon, c'est une des pistes lancées par le réalisateur.
Alors justement, ça c'est à mon avis le coup de génie quand même de Richard Kelly, c'est cette conception et cette nature profondément sédative du film. C'est un film sous Valium pendant deux heures. Je veux dire par là, c'est qu'on a un sentiment d'être sur un peu de flotter, d'être mal réveillé, d'être dans une sorte de semi-hallucination, de rêve éveillé en permanence. Et tous les personnages sont pris dans cette espèce d'onde bizarre, au sens où aucun ne crève véritablement l'écran. L'espèce de sentiment un peu de moiteur comme ça. On n'est pas du tout dans un on a le sentiment que la fin du monde a eu lieu et qu'il ne reste plus qu'un monde d'apparence, parce que tout le monde est apparence. Les parents sont véritables. Le père est un conservateur américain qui n'aime pas Michael Dukakis et qui se préfère à voter Bush père. D'ailleurs, qui apparaît un moment sur l'écran de télévision en évoquant le président du Panama, son ami Noriega. Il y a toute une espèce de gentry de province qui joue au golf, tout ça. Il y a le monde du lycée, mais malgré tout, il n'y a pas de, je dirais, de violence claire là-dedans. Tout ça est un peu brumeux, cotonneux, et on a vraiment l'impression que la perception du personnage avale la totalité du film.
C'est très juste, et pour moi, c'est une manière de proposer une sorte de version ultime du teen movie. Parce qu'en fait, ce côté sédatif, c'est vraiment l'expression de l'adolescent qui n'a plus aucun repère et pour qui les adultes sont des étrangers et qui se retrouve au cœur d'une histoire dont on ne maîtrise rien. Alors, ça se passe en 88, c'est la propre jeunesse de Richard Kelly. C'est très autobiographique, c'est-à-dire que effectivement, Rod Serling, Philip K. Dick sont ses goûts et ses goûts qu'il avait déjà à l'époque. Mais tous les détails, à la fois la musique, les vêtements, les marques dont tu parlais, Sixtine, il fait revivre son enfance. Il avait une grand-mère qui s'appelait grand-mère la mort, comme le personnage de la voisine. Donc il va très très loin pour creuser ça, et ça va jusque dans le choix des films, parce qu'il y a une séance de cinéma. Et à l'origine, il voulait le film CHUD, et finalement il a eu Evil Dead. Et c'est beaucoup plus intéressant, parce que c'est dans ce moment-là qu'il y a un portail temporel qui s'ouvre, et justement c'est en quelque sorte ça l'histoire d'Evil Dead. C'est le portail qui s'ouvre pour les forces des ténèbres. Et le film est en double programme, avec un double programme le plus improbable du monde, Evil Dead, avec La Dernière Tentation du Christ. Et finalement, La Dernière Tentation du Christ, c'est presque lui ce qui lui arrive. C'est une mise en abîme du film, puisqu'il se retrouve sommé de faire quelque chose, comme le Christ en quelque sorte. Et est-ce qu'il doit le faire, ou est-ce qu'il ne devrait pas le faire et avoir une vie beaucoup plus simple, épouser sa copine et oublier tout le reste. Le film se retrouve tout d'un coup condensé là, mais je pense que l'idée du teen movie, et c'est peut-être ça qui en fait pour moi le meilleur film de Richard Kelly. J'ai été passionné par Southland Tales quand on l'a vu à Cannes, mais qui est un film plus...
Sur quoi ?
Southland Tales, qui est un film foisonnant, qui est une fresque et tout ça, qu'il faudra redécouvrir un jour si on peut retrouver la version intégrale. Mais je trouve qu'il y a un charme vraiment tout particulier pour Denis Darko.
Fausto ?
C'est un film très doux en réalité. C'est vrai qu'on est assez surpris, puisque quand on connaît pas le film par exemple et qu'on tombe sur des visuels du long métrage pour la première fois, on se dit tiens, on va avoir affaire à un film d'horreur très sombre au-delà de l'image, même l'imagerie en elle-même avec le lapin,
etc. Le lapin fait peur parce que c'est une tête argentée de lapin.
Tout à fait. Mais en fait, le film est d'une douceur assez incroyable.
Il y a des moments d'épiphanie, clairement. La relation amoureuse.
Absolument.
Oui, la petite relation amoureuse entre les deux personnages. Principaux, oui. Et un moment d'épiphanie très clair, très joyeux, presque. Et je trouve que le film change assez fréquemment de ton, d'ailleurs.
Oui, ça, c'est effectivement, Richard Kelly, c'est les ruptures de ton, c'est quelque chose qu'il pratique beaucoup. Puis, en fait, en réalité, c'est plus un film sur la fin d'un monde que la fin du monde, puisque c'est la fin de son monde à lui. Et alors après, métaphoriquement, on pourrait très vite raccourcir ça et dire que c'est la fin de l'adolescence et que c'est pour ça que tout s'écroule autour de lui. Mais oui, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre. Et il y a eu beaucoup de longs métrages ensuite qui ont essayé de retrouver un petit peu ce feeling-là, Denis Darkien. Il y a même eu une suite que le réalisateur préfère oublier, à laquelle il n'est pas du tout rattaché. Mais ça reste un film unique.
avec ce lapin qui est son ami imaginaire. Et alors lapin Franck. qui est étonnant puisqu'il est à la fois bon c'est une espèce de grand doudou de beau, donc c'est le lapin, une espèce de peluche énorme mais qui est pourvu d'une dentition totalement je dirais mortelle, enfin meurtrissante. Donc c'est à la fois ce qui doit sécuriser et rassurer est en même temps un facteur d'inquiétude. Donc ça montre bien par cette image du lapin que l'Amérique n'a plus de base. L'Amérique dérive, l'Amérique est en complète effondrement. Quoi.
Elle travaille sur la voix du lapin. On l'a entendu là dans l'extrait. Il y a un gros travail. Richard Kelly a fait un gros travail sur la post-production et Duval, l'acteur qui fait le lapin, a expliqué comment il a travaillé sa voix à la post-production et en faisant des pauses aussi pour tout d'un coup avoir cette espèce de voix qui paraît presque une voix de l'au-delà et qui suffit à elle seule à être très inquiétante.
Pour conclure, Christophe Bier.
Il y avait une comédie avec James Stewart qui s'appelait Harvey, avec un lapin beaucoup moins inquiétant. Donc je crois que c'est une réponse beaucoup plus angoissante que propose Richard Kelly avec ce lapin. Oui. Et la voix a un rôle vraiment prépondérant. C'est peut-être aussi une voix intérieure. Enfin, il y a toutes ces possibilités qui sont ouvertes aux spectateurs.
On peut écouter les commentaires audio. Il y a 3 commentaires audio sur les 2 Blu-ray avec Richard Kelly qui nous accompagne dans les supputations et les interprétations de cette.
On a commencé cette émission avec les scalps des Mohawks que les Mohawks volaient aux soldats anglais. On va terminer par un autre scalpeur beaucoup plus contemporain, Joe Spinell, dans Maniac de William Lustig.
René Château présente Maniac. La terreur règne sur New York. Chaque jour, des femmes meurent, sauvagement assassinées. La police enquête, mais le Maniac continue son horrible collection. Maniac. Votre vie sera un enfer si le Maniac s'intéresse à vous.
C'est un bonheur, cette bande-annonce. Votre vie sera un enfer si le Maniac s'intéresse à vous. Alors, en 2005, on avait déjà traité du film classique de William Lustig à l'occasion de la sortie d'un double DVD chez Opening. C'était les années Opening. Et en 2019, ce sont les années... Les années Chat qui fume. Avec quand même une autre présentation, beaucoup plus développée.
C'est un coffret
Opening
somptueux.
Avait déjà un DVD entier de bonus qui était de fort bonne qualité.
On retrouve une partie des bonus Opening dans les bonus du Chat qui fume.
Mais est-ce qu'on peut sacrifier son édition Opening ou il faut la garder?
Tu peux la briser en deux.
Je pense que les bonus les plus passionnants de la version Opening ont été gardés par le Chat qui fume. Donc on peut-être la sacrifier. Bon, surtout que là, il y a une restauration 4K à partir du négatif. Vous avez un Blu-ray. Vous avez aussi un CD audio de la musique qui est aussi un des éléments essentiels. De Jay Chataway. Et ça n'est pas dans le coffret collector, mais on peut aussi acheter un petit livre de la collection Nitrate, écrit par Julien Cévéon, sur Maniac, plongée mortelle dans le New York des années 70. Et parmi les bonus assez curieux, mais le Chat qui fume aime bien faire ça, il y a la version VHS dont on vient d'entendre la bande-annonce de René Château. La version VHS est proposée. Bon, je vous conseille plutôt de sauter tout de suite sur la version Blu-ray de la version restaurée, évidemment. Alors oui, c'est intéressant d'écouter cette bande-annonce parce que elle nous donne l'impression d'un film d'horreur. Bon, c'est vrai que le Maniac a été présenté toujours comme un film d'horreur. C'est la volonté de William Lustig, dont c'est le premier long métrage. Enfin non, il avait fait deux films pornographiques pour se faire la main à ses débuts. Et si pour ses premiers... Bon, là, il a 24-25 ans. Il se lance donc
avec
un film d'horreur, puisque c'est un peu la porte ouverte quand on débute dans le cinéma à cette époque. Le cinéma d'horreur est vraiment en pleine expansion. Halloween est sorti quelque temps auparavant. Film d'horreur aussi, puisque les effets spéciaux sont de Tom Savini, qui travaillait juste avant sur Vendredi 13. Donc on est dans ce contexte historique du cinéma américain de l'époque. Et William Lustig est aussi, il le raconte dans les bonus, un passionné du cinéma d'exploitation de la 42e rue, très influencé par le giallo, par Dario Argento, Mario Bava. Et donc on va retrouver l'élément du tueur, du serial killer. Mais il y a parmi les coproducteurs le comédien principal, Joe Spinell, qui va apporter aussi sa touche et qui va faire basculer le film avec la concertation de son réalisateur, évidemment. Il va faire basculer le film vers quelque chose de beaucoup plus psychologique. Et donc, l'intérêt de ce slasher, c'est de nous intéresser immédiatement, dès les premières images, au personnage du tueur. Ça n'est pas un tueur menaçant, sortant de l'ombre, comme quelque chose d'extrêmement abstrait. C'est pas une incarnation du mal personnalisé. C'est un être de chair, une chair qui est en souffrance. Il y a un magnifique plan, on le voit au début du film, torse nu, avec un corps couvert de cicatrices. Il y a les photos de sa mère, et puis... donc on comprend très vite aussi un discours intérieur où il se souvient de sa mère qui le frappait. Donc nous sommes déjà, on a affaire à un enfant battu. Et donc Maniac est aussi un film qui va nous aider, qui va amener le spectateur à avoir beaucoup d'empathie pour ce tueur qui commet des actes épouvantables, puisqu'on a eu affaire au trucage de Tom Savini. Ça n'est pas pour rien, c'est vraiment sur le côté horrifique on est servi. Mais il y a cette empathie qui va aussi être soulignée par l'apport musical donc de Jesse Hathaway. Sa musique fonctionne vraiment comme un contrepoint, comme l'interprétation de Joe Spinell. C'est une musique assez douce. Un solo de flûte avec parfois un son de clochette très léger du piano. Donc on est dans ce contrepoint. C'est une musique qui essaye de nous faire entrer dans la tête du tueur. Et l'aspect le plus horrifique du film, il est là. Il est dans le côté très intimiste, dans le côté compassionnel. C'est peut-être ça l'effet le plus terrifiant, puisqu'il agit en contrepoint total avec les séquences d'horreur que William Lustig se met vraiment un point d'honneur à filmer.
Fausto Fazulo.
Oui, tout réside en fait dans l'empathie du spectateur pour Joe Spinell en réalité. C'est-à-dire que là, on n'a pas affaire à une vague empathie comme on peut en avoir dans certains slashers où on a droit à un petit flashback sur le tueur et on se rend compte qu'il a été maltraité par ses camarades à l'école. Là, on a vraiment un travail de Joe Spinell dans l'incarnation qui est remarquable. Il y a des choses qui sont semi-autobiographiques, notamment dans ce rapport à la mère. Ça, on l'apprend dans les bonus, que Joe Spinell était quelqu'un qui était particulièrement attaché à sa maman, et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans Maniac. Et puis, il y a quelque chose qui, moi, a façonné, à titre personnel, ma vision de New York, c'est l'aspect, en fait, quasiment documentaire du film. C'est-à-dire, avec des titres comme Un justicier dans la ville ou comme Taxi Driver, Maniac est aussi une sorte de cartographie interlope, une sorte d'instantané de ce que pouvait être New York à la fin des années 70. Et voir justement Joe Spinell trimballer sa carcasse dans des rues dans lesquelles on ne se promènerait pas. Ça a clairement impacté l'imaginaire de tous ceux qui ont découvert ce film à une certaine époque, qui n'avaient jamais été aux États-Unis et qui pensaient que cette ville-là était parmi l'une des plus dangereuses au monde, ce qu'elle a été d'ailleurs à un moment. Mais il y a vraiment cette volonté, je trouve, aussi chez William Lustig, en plus de travailler son personnage au plus profond de ses sentiments et de ses ressentiments, c'est de montrer là où il vit, là où vivent ces gens, de montrer là où il va aussi, puisque Lustig effectivement fréquentait, et Joe Spinell aussi d'ailleurs, tous les coins qu'on voit dans le long métrage. Donc il y a un aspect semi-autobiographique, pardon, j'ai du mal, et documentaire, qui enrichissent clairement le film et qui font de lui autre chose qu'un simple slasher.
Sixtine.
Oui, c'est vrai que, bon, pour revenir un peu sur les thématiques sexe et violence, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que peut-être on vit la criminalisation justement de ce personnage, puisqu'on voit, on suit avec son regard ses corps qu'il désire et donc on l'entend d'ailleurs, c'est un des trucs du film, on entend le criminel respirer. Au début, on a vraiment ce côté très giallo avec les lunettes qui balayent la plage, et qui voit donc ces deux couples. Et donc à chaque fois il intervient et il semble ne pas réussir à toucher son désir, et finalement il est obligé de passer dans la violence. Et je pense que c'est assez peut-être caractéristique justement de cette transition d'un film pornographique, d'un âge doré du cinéma pornographique dans les années 70, vers justement le moment de la censure et des vidéos nasties qui vient à la fin des années 70.
Ce qui est très intéressant, c'est que ça vient aussi du stalker film. Enfin, Christophe avait raison de parler d'Halloween et de Vendredi 13, parce que c'est à la fois ce tueur et toutes ces premières scènes avec la respiration qu'on entend, c'est vraiment la figure du slasher ou du stalker, mais avec en même temps cette empathie dont vous parlez tous. Et pour moi, je le relis à un côté très concret, c'est-à-dire que c'est un film qu'on n'imagine pas en numérique. Parce que les corps sont bien là et les trucages évidemment de Joe Spinell avec du faux sang, avec du latex et tout ça, parce que il y a quand même ce côté très sexuel avec les cadavres. Je veux dire qu'ils fassent des scalps, comme on a dit, c'est pas innocent, c'est pas juste un collectionneur de scalps.
Avec les scalps, il fait des poupées,
mannequins, il couche avec des mannequins en plastique sur lesquels il met ses scalps, et à quel point les mannequins en plastique deviennent dans sa tête des femmes de chair et de sang ou des cadavres qui ressuscitent. Il y a un côté extraordinairement poisseux qui se retrouve avec cette vision de New York qui, moi, fait tout le charme du film, et avec des vrais moments de tension. C'est vrai que c'est un film dramatique, mais c'est un pur film d'horreur. À titre personnel, quand ma femme a découvert ce film, elle a dit ce sera plus jamais de film d'horreur. Enfin, je veux dire, ça l'a tellement effrayé, notamment une scène dans le métro
remarquablement filmé.
Et je veux dire, Bill Lustig, c'est son premier film vraiment comme ça, mais il a une maîtrise totale de la mise en scène, de l'angoisse, et les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce film doivent absolument se ruer, parce que c'est un film qui réunit un peu toutes les qualités, et y compris le fait d'être très captivant.
Et c'est un film surtout qui croise deux traditions qui sont, à mon avis, les deux traditions déterminantes du slasher et du film de tueur. C'est M le maudit d'un côté et le giallo de l'autre. À M le maudit, l'empreinte, la visibilité directe, immédiate du personnage. On sait tout de suite qui est le tueur. La souffrance intime, atroce du personnage qui est contraint à l'assassinat pour respirer. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Donc il y a toute cette tradition languienne, et de l'autre, la tradition du giallo. On n'attend pas une heure et demie pour savoir les mains de qui sont dans les gros gants, ou qui est-ce qui est derrière le coutelas. On sait tout de suite, et il croit génialement, Lustig, et Spinell, il croit génialement la tradition du giallo et celle de M. le Maudit.
Oui, je voudrais ajouter aussi, dans les bonus, il y a des scènes retrouvées, ils ont retrouvé dans un entrepôt en 2018, des prises, et notamment, il y a 7-8 minutes de Joe Spinell déambulant dans la 42e rue. Ça, c'est tout à fait étonnant. Et Lustig n'en a gardé qu'une toute infime partie quand Spinell regarde des mannequins dans une vitrine. Mais toute cette déambulation est vraiment formidable. On regrette presque qu'elle n'ait pas été exploitée à fond par Lustig.
Merci à toutes et à tous pour ce mauvais genre arbre de Noël vidéo de ce soir. Je rappelle les DVD évoqués, Le Dernier des Mohicans de Michael Mann, DVD Blu-ray chez ESC, superbe donc Donnie Darko chez Carlotta et superbe également Maniac de William Lustig aux éditions Le Chat qui fume. Toute l'équipe de mauvais genre, Laurent Polleret, Jean-Michel Bernaud, Claire Poinsignon, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnay, Sixtine Audebert, Philippe Rouillet, Christophe Bier, Fausto Fazulo et François Angelier. Vous remercie de l'avoir écouté. L'émission se retrouve samedi prochain où on ne quittera pas l'univers de l'horreur américaine puisqu'on vous parlera très essentiellement et on entendra surtout le grand Charles Burns à l'occasion de Dédale, son dernier album paru aux éditions Cornelius. Et d'ici là, bonne nuit à tous.